Alors, contrairement aux armées continentales qui sont des armées issues de la conscription, l'armée britannique du 19e siècle est une petite armée, mais une armée de métier. C'est donc une armée d'engagés rompus à la discipline. Certains noms d'archaïsme comme le châtiment corporel, par exemple le fouet, vient d'être supprimé dans l'armée britannique. C'était une longue discussion pénible, parce qu'il y avait des gens qui voulaient maintenir les bonnes traditions. Mais donc on vient juste de supprimer le châtiment corporel dans cette armée. Mais c'est surtout une armée coloniale qui, en particulier dans le corps des officiers, composé d'officiers qui ont fait toutes les guerres coloniales depuis la guerre de Crimée, enfin, à l'exception de la guerre de Crimée, et qui est donc parfaitement professionnalisé. Le 2 août 1882, le premier contingent venu de l'Inde occupe la ville de Suez, évidemment pour protéger Suez des zurabistes. C'est une évidence, comme il se doit. Mais les combats principaux vont se situer... donc là, c'est l'occupation de Suez, je pense, par les troupes venues de l'Inde. Les combats principaux sont évidemment d'abord dans la région d'Alexandrie. Alors, pour les petites histoires, mais ce n'est pas une petite histoire parce que ça reste dans les mémoires, Palmer, donc ce professeur d'arabe, a rejoint les forces britanniques à Suez. Il est nommé interprète en chef de l'armée, puis il repart dans le désert avec 2 officiers britanniques pour acheter des chameaux et offrir aux chefs bédouins des sommes importantes afin de s'assurer de leurs allégeances. Mais les 3 hommes vont disparaître, ce qui inquiétera évidemment les autorités britanniques qui décideront d'envoyer Francis Burton à la recherche de Grant Burton, celui qui avait fait le pèlerinage à la Mecque, celui qui avait fait la découverte des sources du Nil. Mais avant que Burton arrive en Égypte, on découvrira les dépouilles mortelles des 3 émissaires. Ils ont été faits prisonniers par des bédouins à la mi-août 1882, puis exécutés par leurs ravisseurs. Les 3 héros seront enterrés à la cathédrale Saint-Paul de Londres. J'assiste sur ce mini-épisode parce qu'on a toujours l'impression que Laurence d'Arabie, qui s'habille en bédouin, etc., c'est une nouveauté, etc. Non, non, c'est des pratiques courantes. Et évidemment, en 1914, les gens se rappellent l'aventure malheureuse de Palmer et de ses compagnons qui avaient essayé de soulever les bédouins du Sinaï. Le 5 août, les forces britanniques d'Alexandrie font une forte reconnaissance armée sur Kafr el-Dawa. Donc, vous voyez ici. Ils sont repoussés par les troupes égyptiennes, même si les pertes anglaises sont minimes, 4 tués, 27 blessés. C'est considéré comme une victoire égyptienne. Mais surtout, la position britannique à Alexandrie est fragilisée parce que les Arabistes sont en train de couper le canal Marmoudier qui alimente Alexandrie en eau douce. On rappelle qu'Alexandrie est dans le désert et que depuis l'Antiquité, Alexandrie ne vit que par le canal d'eau douce qui va du delta à Alexandrie. Donc, au XIXe siècle, il a été refait à l'époque de Mahmoud II, c'est pour ça qu'on l'appelle le Marmoudier. Mais c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Avec le début de la crue du Nil, puisque nous sommes l'été, et que je vous rappelle, la crue du Nil a lieu en été, Alexandrie devient progressivement une sorte de presqu'île dont les accès sont contrôlés par les troupes de Rabbi Pacha. Lesseps, lui, exaspère les Britanniques dans ses efforts pour maintenir la neutralité du canal. Dans ses télégrammes successifs à Paris, Lesseps fait l'apologie d'Ourabi et de ses partisans. Mais les Anglais obtiennent du Khedive une pleine autorité pour le rétablissement de l'autorité khediviale sur le canal. Donc, il y a opposition entre Lesseps et le Khedive, parce que Lesseps a l'acte de concession pour lui, mais le Khedive a la légitimité de l'État de son côté. Et donc, il faut rappeler que l'Égypte reste garante du maintien de l'ordre dans la région du canal. Le 10 août, quand le consul britannique Mallette revient de Venise, où c'était en congé maladie, et travaille activement à former un nouveau gouvernement égyptien. Après plusieurs jours de discussion, Chérif Pacha forme un nouveau gouvernement qui comprend plusieurs illustrations de la période précédente, dont Riaz Pacha, Nubar Pacha qui est en France, est autorisé à revenir en Égypte. Et officiellement, on annonce que le programme de réforme qui avait été interrompu à l'époque de Chérif, enfin la chute de Chérif Pacha, sera repris. L'affaire égyptienne passionne évidemment l'opinion publique internationale. Plusieurs compagnons de Garibaldi se déclarent prêts à prendre les armes du côté de Rabbi Pacha, pas Garibaldi lui-même, parce qu'il vient de mourir en juin 1882. En revanche, la propagande anglaise et française fait du chef nationaliste un massacreur de chrétiens. Et du coup, les Européens qui sont passés du côté de Rabbi Pacha sont assimilés aux communards. Et il faut dire qu'en France, c'est Rochefort et la Lanterne qui fait campagne pour Rabbi. Donc Rochefort, c'est la commune, bien évidemment. Alexandrie, où une esquisse de vie normale vient de reprendre, le gouvernement égyptien prend prétexte de la situation pour interdire aux indigents européens, c'est-à-dire les ouvriers grecs et italiens sans travail et sans domicile, d'accéder à la ville. Et les consuls européens, soucieux d'ordre public, ne protestent pas, car après tout, ils considèrent quand même que ces gens sans aveu ont été quand même l'une des causes principales des troubles qui ont provoqué les malheurs de la ville. Le 15 août, Wolseley arrive à Alexandrie et publie immédiatement une déclaration affirmant que les troupes anglaises ne sont là que pour soutenir l'autorité du Khedive et combattre ceux qui portent les armes contre lui. Jusque-là, les troupes qui étaient arrivées par échelons successifs avaient débarqué dans la région d'Alexandrie. Le commandant en chef les fait rembarquer le 18 août et opère un simulacre de débarquement à Aboukir le 19 pour faire croire à une marche sur le Caire à travers le désert, rappel de la manœuvre de Bonaparte en 1798. Il fait répondre par les correspondants de presse qu'il considère par ailleurs comme étant la malédiction des armées modernes toute une série de fausses nouvelles afin d'égarer les Égyptiens. Il ne savait pas qu'il faisait de la post-vérité, celui-là. Enfin, le contingent resté à Alexandrie multiplie les opérations dans le secteur d'Aboukir Kafr Dawar pour faire croire que c'est le théâtre principal d'opérations. En réalité, les Britanniques bloquent le canal de Suez, comme marque le télégramme affolé de Lesseps. Amiral anglais Suez informé agent principal transit que, en vertu d'instructions du gouvernement anglais, il interdit l'entrée du canal jusqu'à nouvel ordre aux navires grands petits, y compris les canaux de la compagnie, et qu'au besoin, il aura recours à la force pour empêcher toute tentative de contravention à ses ordres, En outre, Amiral a placé à l'entrée du canal un canot armé. J'ai protesté contre cet acte de violence et de spoliation. Le président de la compagnie du canal universel a beau saisir par télégraphe le conseil juridique de la compagnie, qui considère qu'il y a bien violation de la neutralité et des biens de la compagnie, il doit s'incliner devant le coup de force britannique. Et déjà, les juristes de la compagnie universelle préparent le dossier pour obtenir des indemnités, hein, puisque, quand même, on est dans une époque de droit. Le problème supplémentaire, c'est que l'Angleterre, qui vient de faire cette manœuvre, possède 45% des actions de la compagnie universelle. La question du canal de Suez en 1882 va peser lourd dans le récit national égyptien. Une somme Kourabi est crue aux assurances de Lesseps en dépit des avertissements de Ninet et de son entourage. Alors, selon le récit de Ninet, il fut décidé pour la seconde fois depuis l'entrée en campagne de détruire partiellement le canal de Suez, et cela tout de suite sans se préoccuper davantage de l'opposition de M. de Lesseps. Trop de temps avait déjà été perdu. Orabi, je dois le confesser, manquait toujours de décision sur ce point très délicat. M. de Lesseps semblait l'avoir gagné à l'idée qu'en protégeant quand même le canal, son nom en grandirait, ce qui vraiment n'était qu'une prétentieuse absurdité. De là cette théorie dont il se sentait obsédé. Le canal est la grande route ouverte à tous les pavillons et touchée à mettre contre nous l'Europe, le monde entier. Du reste, le général ministre était le seul de son opinion. En fait, Issam Kourabi commençait à comprendre ce qui s'était en train de se passer et a demandé au Majlis Rourfi du Caire l'autorisation de faire stationner des troupes le long du canal, mais le Majlis avait refusé parce qu'il ne veut pas provoquer une intervention européenne. C'est après du refus du Majlis, Kourabi s'est montré complaisant par rapport aux avis de Lesseps. Pour l'historiographie égyptienne, Lesseps a volontairement induit Orabi en erreur, ce qui ajoute la grande liste des griefs des nationalistes égyptiens contre la personnalité de Ferdinand de Lesseps. En réalité, la correspondance diplomatique montre que Lesseps et la compagnie universelle ont multiplié les protestations et menacé la Grande-Bretagne d'actions juridiques, ce qui a laissé les militaires de marbre. De même, la compagnie a refusé de contribuer au débarquement des troupes britanniques et a vu son matériel provisoirement réquisitionné dans ce but, mais les choses ont repris très rapidement leur cours normal à la grande satisfaction de la compagnie, puisque finalement l'interruption du service n'a duré que 24 heures. Le souci britannique est d'assurer la meilleure gestion possible du canal afin de mettre fin aux velléités françaises et italiennes d'exercer une protection collective. Donc, en tout cas, les troupes égyptiennes britanniques commencent à débarquer sur le canal. Attends, je suis allé trop loin. Voilà. Donc, maintenant, la marine britannique entre dans le canal de Suez et arrive le 20 août 1882 à Ismaïlia, où fait jonction avec les troupes venues de l'Inde via Suez. Évidemment, la marine britannique positionnée dans le canal et en particulier dans les lacs couvre de son artillerie les forces britanniques. En même temps, le major Tulloch a fait couper à Jaffa le fil télégraphique entre le Caire et Constantinople. Comme l'autre câble passe par Alexandrie, l'Égypte est maintenant coupée du reste du monde. Puisqu'il n'y a que les Britanniques qui contrôlent les liaisons télégraphiques. Alors, la réplique britannique, égyptienne, a était d'essayer de couper le canal d'eau douce. Donc vous voyez ce fameux canal d'eau douce qui a été indispensable, parce qu'avant même de creuser le canal de Suez, il a fallu d'abord creuser le canal d'eau douce pour permettre tout simplement de ravitailler les ouvriers qui étaient dans l'isthme. Donc il part d'Ismaélia, il suit toute cette zone, et là en vert évidemment les terres qui ont été mises en culture grâce au canal d'eau douce, qui était en plus une opération agricole en même temps qu'une alimentation en eau. Les premiers combats donc vont se concentrer dans la zone du canal d'eau douce, les 24 et 25 août, et les Égyptiens vont avoir une très lourde perte, puisque l'ingénieur en chef de l'armée égyptienne, une personnalité de grande valeur, est capturé par les Britanniques. La première grande bataille a lieu donc sur le canal d'eau douce à Kassassin. Vous n'y passez où, Kassassin ? Voilà. Entre là où s'affronte l'armée égyptienne qui vient de Kafrat Dawa face à l'armée égyptienne. Alors on voit le professionnalisme des soldats britanniques là en embuscade dans le secteur de Kassassin, et puis ensuite c'est la mêlée où la cavalerie britannique enfonce les lignes égyptiennes. Les jours suivants, Wolseley, qui affronte de gros problèmes de logistique, consolide sa position et fait venir de nouvelles forces d'Alexandrie. Les pertes britanniques sont légères, mais vous vous rappelez, on est au mois d'août, hein, donc il fait extrêmement chaud en Égypte dans cette période. Selon ce qu'avait bien compris Wolseley dès le départ, Orabi conduit à abandonner Kafrat Dawa et à prendre position sur le canal d'eau douce à Tel el Kebir. Et et là, c'est encore les progrès de la modernité, puisque l'avant-poste britannique à Kassassin est relié par fil téléphonique à l'arrière de l'armée britannique, à Ismaïlia. C'est la première fois qu'on utilise le téléphone de campagne dans la guerre moderne. Et Wolseley envisage de marcher sur Tel el Kebir, mais il est pris par surprise par une attaque égyptienne, qui est la seconde bataille de Kassassin, le 9 septembre 1882, mais les Britanniques arrivent un peu rapidement à repousser l'assaut égyptien. Et dans les rangs de l'armée égyptienne, la perte de chefs militaires de valeur, les bruits de trahison d'officiers et de bédouins conduit évidemment à une crise intérieure dans les rangs de l'armée d'Orabi Pacha. Tout seul, comme dit Ninet dans ses mémoires, tout cela ne tendait guère à remonter le moral de l'armée. Les vieux bataillons, il y en avait très peu, étaient abattus. Quant aux jeunes soldats à peine initiés au maniement des armes, ne sachant pas même marcher, et c'était les 7/8 du corps de l'Est, ils songeaient plutôt à fuir qu'à combattre. Enfin, et c'est le pire à confesser, lors de Sultan Pacha, donc l'ancien chef du Parlement égyptien, mais qui est passé du côté du Khédive, arrivé, on ne sait trop comment, jusqu'à la poche de certains officiers, de lieutenants à colonels et de grades inclusivement, dont les noms appartiendront à l'histoire. Donc, Tel el Kebir est ici à peu près, et Orabi tente de se fortifier devant Tel Kebir, qui est à 6 km de Kassassin. Il dispose d'une vingtaine de milliers d'hommes de qualité. Il y a. Alors, le plan de Wolseley est très simple, mais toujours compliqué d'exécution. Il va prendre les troupes britanniques qui sont à Kassassin et de faire une marche silencieuse de nuit qui fait que les Égyptiens ne se rendront pas compte pour attaquer à l'aube du 13 septembre l'armée égyptienne. Donc, la marche de nuit s'opère avec peu de visibilité et avec des consignes strictes de faire le moindre bruit possible. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que l'aube semble se lever 2 heures avant l'heure prévue. En fait, c'est l'arrivée dans l'hémisphère nord de la grande comète de 1882. Qui a commencé à être visible à partir du 1er septembre 1882 au Cap de Bonne-Espérance. Et donc, pour la première fois... Alors, personne ne s'attendait à l'arrivée de la comète qui va rester pendant plusieurs mois dans le ciel de l'Europe et de l'hémisphère occidental. Donc, on appelle la grande comète de 1882 qui, semble-t-il, est la comète la plus importante en termes de visibilité de tout le 19e siècle. Et là, c'est une photo de la comète de 1882, prise, je crois, au Cap, le 2 septembre de cette année-là. Alors, cette comète va d'ailleurs provoquer une très grande inquiétude dans la population égyptienne, parce que vous savez qu'en général, les comètes sont considérées plutôt comme des signes de malheur dans l'histoire. Donc là, ce sont les positions des troupes britanniques qui maintenant se sont avancées et sont au contact des troupes égyptiennes vers 6-7 heures du matin. Et puis, c'est l'assaut des troupes britanniques, les Écossais en première ligne, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la charge des Highlanders, la plus près. Sur les troupes égyptiennes, puis ensuite les cavaleries. À 4h58, le combat a commencé par un feu généralisé sur toute la ligne, et déjà les Britanniques ont pénétré les lignes égyptiennes. Ensuite, c'est la charge à la baïonnette. Les Égyptiens résistent vaillamment, mais leurs positions sont rapidement emportées. Au bout d'une heure de combat, ils font retraite, devant abandonner leurs blessés et leurs morts. Et le camp égyptien est pillé et saccagé par les vainqueurs. Les pertes britanniques sont de 58 tués, 401 blessés et 15 disparus, pour plus de 2000 Égyptiens tués à Tel el-Kébir. Une partie des blessés égyptiens a été soignée par les services médicaux britanniques, mais les blessés considérés comme intransportables ont été exécutés sur place. Le général britannique peut immédiatement envoyer des télégrammes, puisqu'il a une communication téléphonique jusqu'à Ismaïlia, et ensuite le télégramme renvoie. Et donc, à Londres, le jour même, on annonce la grande victoire britannique de Tel el-Kébir. L'historiographie égyptienne postérieure insistera sur la bravoure des soldats égyptiens dans le combat, ce qui d'ailleurs a été tout parfaitement reconnu par les Britanniques. Pour l'histoire égyptienne, la cause principale de la défaite est attribuée à l'ampleur de la trahison des partisans du Khedive dans les rangs de l'armée égyptienne. On ne trouve pas des informations équivalentes dans les archives militaire britannique, mais il est évident qu'en période de guerre civile, les trahisons, défections et autres sont tout à fait courants. Immédiatement, l'armée égyptienne, britannique marche sur le Caire afin d'interdire aux Égyptiens le temps de se reprendre. Et au Caire, Orabi Pacha a tenu immédiatement un conseil de guerre avec les principaux chefs du mouvement, accusant les trahisons, enfin les traîtres, d'être responsables de la défaite. Certains veulent continuer le combat, mais la majorité s'incline en disant que de toute façon le rapport de force est trop écrasant contre eux. Orabi fait une dernière inspection des positions militaires devant le Caire et conclut que la ville est indéfendable et que ce n'est pas la peine de faire une nouvelle effusion de sang. Et donc, il décide de se rendre. Et lui et ses compagnons... Ah, ce n'est pas un acte de lâcheté, la reddition d'Orabi et de ses compagnons, parce qu'ils savent pertinemment que le Khedive a l'intention de les faire exécuter. Donc, c'est bien parce qu'ils veulent arrêter le combat qu'ils se rendent. Et donc, le 14 septembre 1882, les premières troupes britanniques arrivent dans les faubourgs de la capitale et la reddition de la ville se fait dans la foulée. Le seul des compagnons d'Orabi est passé dans la clandestinité, c'est Abdallah Nadim. Les autres sont faits prisonniers. Alors, évidemment... prestige britannique, la caricature du punch... on a vaincu. Et ça, c'est Orabi au pied de Wolseley. Ah, bon, on reconnaît toute la morgue victorienne comme il se doit, et la référence latine comme il se doit tout aussi bien. Les jours suivants, les autres garnisons égyptiennes capitulent et l'armée égyptienne est renvoyée dans ses foyers. Et tous les notables se précipitent pour faire allégeance au Khedive. Selon le témoignage du consul de France, tous les notables du Caire se sont empressés d'aller offrir leur hommage au général Wolseley à son entrée dans la ville. Les félicitations, les protestations de fidélité pleuvent chez le Khedive. Jamais on n'a vu en Europe une telle platitude. Son Altesse elle-même en est dégoûtée. Elle s'en confirme dans son opinion que ce pays n'a aucun esprit national, qu'il n'est même pas mûr pour une constitution, il doit être mené par la force. Tels sont les sentiments qu'elle m'a exprimés elle-même lors de notre dernière entrevue. Mais il est bon de remarquer que tout cet empressement de servilité ne se voit que dans les hautes classes. Le peuple se tait. Vous savez bien écrire, les consuls, quand même. Donc, l'effondrement rapide du mouvement, dont la phase propre de révolte n'a duré que 2 mois, entre le bombardement d'Alexandrie et la bataille de Tel el-Kébir, a obscurci la question de la nature sociale des événements. Il est clair que les partisans d'Orabi sont pour l'essentiel recrutés dans l'appareil d'État, dans les milieux intellectuels souvent liés à cet appareil, et de façon plus générale dans la population urbaine. Le seul historien qui a travaillé un peu sur la question sociale, l'Américain Joan Cole, insiste considérablement sur le rôle joué par les guildes, les corporations de métiers, qui encadrent les populations urbaines, y compris dans les villes nouvelles du canal. La question paysanne pose plus de difficultés d'interprétation dans la mesure où on connaît surtout le rôle des Ramda, des chefs de village, des Sheikh el-Beled, qui servent d'intermédiaire entre l'État et les paysans. Si leurs prises de position en faveur de Rabi sont connues, on ne sait pas les attribuer à leur appartenance à l'appareil d'État ou à la paysannerie. Le malaise social est certain, on a vu l'ampleur terrible de l'usure dans le delta du Nil, mais en Haute-Égypte, si on n'a pas d'usure, on a un véritable banditisme rural qui revient aussi à montrer la soumission des populations paysannes. Jadis, Jacques Berck voyait dans ces révoltes paysannes, enfin dans ces mouvements de banditisme en Haute-Égypte, le signe d'une protestation sociale et politique contre le régime khedivial et l'occupation britannique. Il anticipait d'ailleurs les écrits d'Osbaum sur les primitifs de la révolte. c'est-à-dire donc ces bandits qui sont mi-chemin entre la crapulerie et la révolution. De même, on a vu donc que Orabi Pacha avait suspendu le paiement des dettes, ce qui explique sa popularité dans le Delta. Donc, il est tout à fait possible, on ne peut pas le savoir évidemment, que si le mouvement avait duré plus de deux mois, on aurait peut-être eu une véritable révolte rurale en Égypte, parce qu'un certain nombre de signes l'annonçaient, mais la victoire britannique a été trop soudaine. Néanmoins, il faut aussi considérer que la plupart des cadres du mouvement orabiste, officiers et non-officiers, sont aussi des propriétaires terriens. Orabi Pacha lui-même est propriétaire terrien, il possède 200 feddans. Donc, ils n'ont pas intérêt à déclencher une révolte agraire non plus. L'ambiguïté donc est forte sur la dimension ethnique. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'opposition entre Fella et Turco-Circassien, mais malgré tout, l'identité moderne qui s'était développée, Meslen Mesleyin, l'Égypte aux Égyptiens, renvoie tout aussi bien au Fella qu'au Turco-Circassien, de même que la référence à l'islam regroupe les deux composantes de la population égyptienne. La composante islamique a été forte et a eu un impact considérable, mais on n'a pas eu de violence contre les Coptes, ce qui montre que le mouvement n'était pas en soi antichrétien. Il suffit de voir la carrière d'un certain Boutros Ghali, né en 1846, qui est devenu secrétaire général du ministère de la Justice en 1879 avec Laurent de Bay, puis en septembre 1881, il devient le premier copte à atteindre le grade, enfin la dignité de Pacha, donc Boutros Ghali Pacha, l'ancêtre de Boutros Ghali. Il sert d'intermédiaire entre les Orabistes et le Khédive quand ils font leur soumission. Donc, très habilement, Boutros Ghali a réussi à se concilier les deux camps. L'hostilité au Levantin a été forte, mais une partie des Syro-Libanais ont joint la révolte, sensible à la parenté de langue, même s'il n'y a eu aucune forme d'arabisme en Égypte dans la période. Il n'y a que les Européens et le calife Abdelhamid pour croire que c'était une révolte arabe. C'était une révolte égyptienne, et pas du tout arabe. Il n'y a pas de référence arabiste dans le mouvement d'Orabi Pacha. Le rejet des Européens a surtout visé la remuante population de Maltais, Grecs et Italiens qui vivaient depuis longtemps en mauvais termes. Et on a vu que quelques Européens comme Ninette avaient joint le mouvement. Alors la répression commence immédiatement par des arrestations massives de participants actifs à la révolte. Le Khédive s'est mis ostensiblement sous la protection des Britanniques, ce qui les embarrasse plutôt. Ils se rendent immédiatement compte que le souverain théorique de l'Égypte est totalement impopulaire et qu'il est impossible de revenir à l'ancien régime. L'armée a été dissoute et il ne reste que quelques forces de police à son service. On tente une nouvelle fois de recruter des musulmans balkaniques pour recréer une armée égyptienne, mais une nouvelle fois, Abdelhamid s'y oppose. Donc, il faut prendre une décision politique. Parce qu'après tout, c'est bien beau d'avoir conquis l'Égypte d'un seul coup et avec une opération militaire magnifique, puisque en moins de deux mois, on s'est emparé de l'Égypte, et juste à l'endroit prévu. Je veux dire, Wolseley a gagné la bataille de Tel Kébir qu'il avait prévu en partant de Londres. Maintenant qu'on a conquis un pays, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ça rappelle certains épisodes en 2003. Londres décide d'envoyer un expert, c'est-à-dire l'ambassadeur britannique à Constantinople, le comte de Dufferin, Lord Dufferin, qui, je vous le rappelle, était un jeune diplomate qui avait été chargé de la négociation lors de la conférence des ambassadeurs pour régler la question de la Syrie et du Liban en 1860-1861. Donc c'était un jeune diplomate à l'époque, maintenant il a pris du grade, le Lord. Il est ambassadeur à Constantinople. Reçoit l'ordre de venir en Égypte pour analyser la situation politique et proposer un programme d'action au gouvernement britannique. Alors, les premières décisions britanniques sont de réduire le corps expéditionnaire, puisqu'après tout, comme la résistance a été écrasée, on n'a plus besoin de l'essentiel des forces britanniques, qui sont réduites de 33 000 hommes à 12 000, l'Angleterre n'ayant qu'une présence provisoire en Égypte. Et on se revendique du précédent de Waterloo en 1815, qui fait que la charge de l'occupation du territoire français après Waterloo avait été prise par le pays occupé. Donc, c'est à l'Égypte de payer les frais d'occupation. C'est Gladstone qui dit qu'on fait comme après Waterloo. Hein. Bon, on est en 1882, c'est une histoire relativement récente, elle remonte à 70 ans. La première décision, qui est une décision sans être une décision, est de suspendre le contrôle financier franco-britannique sur les finances égyptiennes. Alors, les Anglais se font le plaisir de faire annoncer la nouvelle par le premier ministre égyptien, Sharif Pasha, et non pas par eux. Et évidemment, on sent dans la déclaration de Sharif Pasha un certain sentiment de revanche, puisque Sharif dit au consul de France « Il est cependant de son devoir de rappeler, ce qui d'ailleurs de notoriété publique, que cette institution a, par suite de son dualisme, de son caractère quasi-politique, déterminé des abus administratifs incontestables, soulevé les susceptibilités légitimes des Égyptiens, et qu'elle eut pour résultat de porter atteinte dans des proportions dangereuses à l'autorité du gouvernement vis-à-vis du pays. » Là, on peut penser que Sharif est évidemment totalement sincère quand il condamne les maux du condominium financier franco-britannique. Donc, Dufferin arrive en Égypte au début de novembre 1882, avec les instructions de ramener l'ordre dans le pays, de rétablir la concorde parmi les habitants de toute classe, de toute race et de toute religion, et de restaurer l'autorité du Khédive. La reine Victoria lui a fait savoir dans une correspondance particulière que malgré tout, l'Égypte doit rester sous notre contrôle sans passer par une annexion. D'ailleurs, la presse anglaise évoque évoquement un protectorat sur l'Égypte, donc caricature d'époque, évidemment, le lion britannique, le crocodile, c'est l'Égypte, l'ours, c'est la Russie, et les différents volatiles. L'Inde, c'est plus, je ne sais plus qui c'est, je ne vois pas le d'ici. L'Inde, c'est peut-être la France. Enfin, oui. ou à moins que ce soit les chiens qui sont là. Enfin, les différents animaux représentent les puissances européennes et le lion britannique a mis sa patte sur le crocodile. Et la légende, comme vous le voyez, c'est la part juste du lion. On voit donc comment l'opinion britannique, à ce moment-là, en septembre 1882, interprète la conquête de l'Égypte. Alors, les Français protestent contre la suspension, pas la suppression, du contrôle financier. Le président du Conseil, M. Duclair, DUCLERC, marque le 11 octobre 1882 la position française. Nous ne saurions admettre en effet que l'Angleterre supprime ainsi par une voie détournée, par une sorte de simple prétérition et sans notre avis, une institution qui fonctionne régulièrement par suite d'accords intervenus entre les deux pays. La réponse britannique aux Français, c'est que pour simplifier les choses, il suffirait d'un seul contrôleur financier doté de pouvoirs moindres. Sa nationalité n'est pas mentionnée, mais compte tenu que l'armée britannique occupe le pays, on comprend évidemment de quelle nationalité serait le contrôleur. Les Français laissent entendre alors qu'il faudrait que la France reçoive des compensations et vertueusement, les Britanniques répondent qu'au contraire, la réorganisation de l'Égypte passe par l'élimination de l'élément européen et le développement de l'élément indigène. Et le jeu va se poursuivre comme ça jusqu'en janvier 1883. À chaque demande française se voit refusée par un gouvernement égyptien que des Britanniques affirment être indépendants. Paris réagit en menaçant de mettre fin à l'entente avec la Grande-Bretagne et de retrouver sa liberté d'action. Finalement, le 30 décembre, Lord Grenville, le ministre des Affaires étrangères britannique, marque que le contrôle financier ne pouvait être maintenu puisque deux des trois parties concernées sont fermement opposées au maintien, c'est-à-dire les Britanniques et les Égyptiens. La réponse inévitable française du 4 janvier 1883 marque la fin d'arriver à un accord. Le gouvernement de Sa Majesté britannique en juge autrement et nous met dans l'obligation de reprendre en Égypte notre liberté d'action. Quelques regrets que nous en éprouvions, nous acceptons la situation qui nous est faite. Donc c'est la fin de l'entente cordiale et le début d'une guerre diplomatique que la France va entamer en Égypte contre la présence britannique. Alors, quant aux Khédives et son entourage, leur priorité est de demander la condamnation à mort de Rabbi Pacha et de ses associés. Comme le gouvernement de Londres a noirci les personnages pour justifier l'intervention militaire, les Britanniques ne semblent pas hostiles. Victoria et Gladstone veulent un châtiment exemplaire. Néanmoins, les Britanniques ont conditionné la livraison des prisonniers de guerre à l'autorité khédiviale à ce qu'aucune exécution n'aurait lieu sans le consentement préalable du gouvernement de Sa Majesté. Et à Londres, Blount s'est immédiatement activé, se déclarant prêt à se rendre en Égypte avec un avocat pour conduire la défense d'Orabi. Ce geste a mis les responsables de l'occupation en grand embarras. Ils veulent interdire l'entrée de l'Égypte à Blount, mais l'intéressé bénéficie des capitulations. Néanmoins, il est décidé de laisser le Khédive refuser l'entrée de Blount sur le sol égyptien. Les autorités britanniques n'interviennent pas dans ce dossier. Mais pour les Anglais, il faut quand même que la procédure judiciaire soit juste. Donc, ils décident d'imposer la présence de représentants britanniques dans la cour martiale égyptienne. tandis qu'il est objecté à Blount que les débats se tenant en arabe, ses avocats ne pourraient pas avoir de rôle. Mais Blount ne se laisse pas avoir et immédiatement il découvre un avocat britannique, un certain Bradley, qui se trouve à Tunis, où il fait une guérilla juridique depuis 2 ans contre les Français. Il était en particulier l'avocat du Ben Tunis contre les Français, et qui parle l'arabe. Et donc Blount décide de l'envoi de Bradley au Caire pour prendre la défense d'Ourabi, et Blount prend à sa charge financière les frais de la défense du groupe des révolutionnaires égyptiens. Ça a du panache quand même. Donc le gouvernement britannique se trouve prisonnier, parce qu'après tout, la Grande-Bretagne est un état de droit. Et d'autre part, il commence à avoir des changements dans l'opinion publique britannique qui ne remet pas en cause l'occupation de l'Égypte, mais qui considère qu'il faut agir avec justice. Et donc, on a là une première épreuve de force entre le consul britannique malais et le gouvernement égyptien. Évidemment, le consul lève la voix et le gouvernement égyptien doit s'incliner et accepter un procès régulier des révoltés. Donc, c'est le paradoxe que la défense d'Arabi Pacha permet clairement aux Britanniques d'imposer leur volonté au gouvernement égyptien, donc d'empiéter sur la souveraineté égyptienne. Donc, Bradley négocie avec le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur égyptien, un Français, Borelli Bey, l'ensemble de la procédure à suivre. Donc, on arrive à un accord sur la procédure juridique le 22 octobre 1882. Et en même temps, le défenseur de Rabi mène une campagne de presse auprès de tous les correspondants étrangers et britanniques au Caire pour lancer une campagne de presse internationale pour sauver Rabi. Le seul qui s'y oppose, c'est le correspondant français qui est Gabriel Charme, qui, dans la presse française, accuse Rabi des pires crimes et massacres commis dans le pays. Donc, on a peur à Londres que l'opinion publique considère que finalement cette occupation a eu lieu pour défendre essentiellement les propriétaires des coupons de la dette égyptienne. Et Bradley exerce ce qu'on appellerait au XXe siècle une défense de rupture en créant le maximum de scandales et d'oppositions juridiques à la procédure. Et il élargit sa défense non seulement à Rabi, mais aux compagnons de Rabi, dont Mohamed Rabdou. Selon le témoignage de Bradley, Rabdou, qui l'a impressionné par ses qualités intellectuelles, lui apparaît brisé par la défaite et les relatifs mauvais traitements qui lui ont été infligés. Et dans son mémoire de défense, Mohamed Rabdou se présente plus comme un fidèle de Sultan Pacha que d'Ourabi. Il a suivi le mouvement plus qu'il ne l'a inspiré et il reprend l'argument que jusqu'au bombardement d'Alexandrie, le Khétive était du côté des militaires. Mais finalement, Mohamed Rabdou se reprend et fournit tout un argumentaire de droit islamique à la défense britannique qui, évidemment, ne connaît pas du tout le droit islamique. Alors, quand Dufresne arrive en Égypte, la première chose pour lui, c'est d'arriver à régler ce dossier des condamnations pour qu'on puisse ensuite passer aux choses sérieuses. Il faut comprendre, Dufresne, c'est un libéral, même s'il a fait une carrière essentiellement diplomatique. Et très rapidement, en s'informant des événements, il considère que Rabi n'est responsable d'aucune violence particulière, sauf le fait de s'être révolté contre son maître légitime, mais on ne peut pas l'accuser de massacre, d'attaque contre les Européens ou contre les chrétiens. Donc, Defrin va négocier avec la défense d'Orabi Pacha un marché et qui est qu'en échange d'une reconnaissance de culpabilité de la part des accusés qui reconnaîtront qu'ils se sont rebellés contre l'autorité légitime du Khédive, ils seront exilés d'Égypte. Évidemment, ils seront d'abord condamnés à mort et puis ensuite amnistiés dans la foulée. Ainsi, Mohamed Hamdou va se trouver exilé pour 3 ans en Syrie. Blount, consulté par télégraphe, donne son accord. Le verdict d'Orabi est prononcé le 3 décembre 1883 à la suite d'une audience judiciaire qui a duré 11 minutes, y compris la lecture du décret d'exil. Les autres accusés sont jugés les jours suivants de la même façon et les avocats de la défense s'assurent qu'à chaque fois, les condamnés puissent quitter l'Égypte pour l'exil dans de bonnes conditions de sécurité. Orabi est exilé à vie à Ceylan, où il est reçu par le grand marchand de thé Sir Thomas Lipton, vous connaissez Lipton Tea, qui s'empresse d'ailleurs de l'utiliser pour faire la publicité pour ses produits, en disant « Orabi Pacha adore mon café ». Il publie ça dans la presse, mais au-delà, il faut reconnaître que Lipton restera un ami d'Orabi. Et en 1903, c'est entre autres grâce à son intervention auprès d'Édouard VII que Orabi sera libéré de l'exil et pourra rentrer en Égypte. Du côté français, Gabriel Charme a trouvé que c'était un simulacre de justice destiné à ruiner définitivement l'autorité légitime du gouvernement égyptien. Le but britannique, écrit-il, c'est de faire du Khedive l'équivalent d'un prince indien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus qu'un simulacre de pouvoir. Le seul au gouvernement égyptien qui proteste, c'est Riaz Pacha qui démissionne de ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Donc, vous avez à la fois dans l'affaire des condamnations une manœuvre politique de Defrin qui veut liquider un dossier embêtant, mais probablement chez lui aussi une conviction qu'il n'y avait de rien de criminel à faire porter contre Orabi et ses compagnons. On notera qu'en 1941, les Britanniques n'auront pas du tout la même attitude dans la révolte irakienne et qu'ils livreront les colonels de la révolte irakienne à la monarchie hachémite qui les fera pendre. Et il semble que s'ils avaient suivi l'attitude d'Orabi Pacha, de Defrin en 1882, ils se sont peut-être économisés bien des problèmes en Irak après. Enfin, ça, c'est un autre sujet, comme dirait l'autre. Pendant ce temps, on a oublié, l'insurrection mahdiste poursuit au Soudan. L'Égypte se trouve dans l'incapacité d'envoyer des forces militaires de renfort à Khartoum. Ça ne semble pas préoccuper les Britanniques pour l'instant, puisque la principale dépense militaire de l'Égypte, c'est l'entretien de la garnison des 12 000 soldats britanniques. Alors, on essaie quand même de réorganiser un faux semblant d'armée égyptienne et Defrin a amené avec lui Valentine Baker, le frère de Samuel Baker, qui était un officier de l'armée britannique, un proche du prince de Galles, mais qui avait été chassé de l'armée britannique à la suite d'un scandale je ne parle pas de l'affaire, ben l'affaire est très compliquée, on ne sait pas s'il était coupable ou innocent, on ne le saura jamais. Et donc, Baker s'était engagé dans l'armée ottomane et avait servi dans l'armée ottomane en 1877-1878. Et donc, Dufresne l'a fait venir avec lui de Constantinople. Et autour de Baker, il y a un petit cercle d'officiers britanniques qui travaillent à un projet de réorganisation de l'armée égyptienne, dont un certain Horatio Kitchener et un certain Reginald Wingate, les deux grands coloniaux britanniques de la fin du XIXe siècle et des débuts du XXe siècle. Il propose la constitution d'une force de 6000 hommes dont les officiers seraient uniquement britanniques. Wolseley et Mallet l'approuvent, mais Gladstone et Granville ne veulent absolument pas que ce soit un officier chargé de l'armée britannique qui prenne le commandement de l'armée égyptienne, d'autant plus que la reine Victoria refuse que cet être immoral ait une telle mission. Donc, finalement, c'est un autre officier, Evelyn Wood, qui prend le titre de Sirdar, de chef de l'armée égyptienne, tandis que Baker doit se contenter de prendre la direction d'une gendarmerie égyptienne à reconstituer. Alors, comme le note avec amusement et pertinence le consul de France, Lord Dufresne s'attache à mettre au point un programme d'Égypte aux Égyptiens à condition qu'elle soit sous l'influence exclusive de la Grande-Bretagne. Les Anglais parlent toujours d'une évacuation proche, mais considèrent qu'ils resteront, conserveront un droit de conseil dans les affaires égyptiennes. Le résultat, on l'a vu, c'est que les Britanniques commencent à nommer des responsables britanniques à la direction d'un certain nombre d'éléments de l'État égyptien. Donc on a vu la gendarmerie, l'armée, autre chose qui sera une grande importance, la nomination d'un Anglais à la tête du service de l'irrigation qui contrôle, et aussi l'administration sanitaire passe sous contrôle anglais dès la fin de 1882. Dufresne envisage ainsi un vaste programme de réformes conduisant à l'émancipation du fellah, y compris sous une forme de représentation politique à plusieurs degrés, aboutissant à une nouvelle chambre des notables. Mais en même temps, il ne faut pas se précipiter d'établir une apparence sans réalité. Après tout, en Inde, les Anglais se sont montrés moins libéraux que cela. Alors, la mission de Dufresne s'inscrit parfaitement dans les atermoiements, voire les contradictions du libéralisme européen à l'âge de l'impérialisme. Il est difficile de marier la volonté réelle d'améliorer la situation matérielle des populations dominées, la volonté de répandre les institutions représentatives et les intérêts économiques et géopolitiques de la puissance dominante. Le travail de Lord Dufresne va être décrit dans un gros livre, excellent d'ailleurs, que vous retrouvez sur Internet, fait par un journaliste britannique, Mackenzie Wallace, qui était correspondant de presse à Constantinople et qui est arrivé dans les bagages de Lord Dufresne et qui en fait est l'officier de presse, le chargé de com', on dirait aujourd'hui, de Lord Dufresne. Il en sortira un gros livre publié dès 1883, Egypt and the Egyptians, qui aura la curiosité de recevoir l'approbation de Blunt lors de sa publication. Donc on va suivre, pour finir, ce qu'explique Wallace, qui est l'homme le plus proche de Dufresne, puisque l'année suivante, enfin en 1884, Dufresne recevra la magistrature suprême pour un diplomate britannique et deviendra vice-roi des Indes. Et donc, par accident, il fera la conquête de la Birmanie pour empêcher que les Français s'en emparent. Ça, c'est un détail. Et évidemment, c'est le personnage de Viceroy qui se trouvera le héros d'un immense poème de Rudyard Kipling, dont Dufresne n'est pas cité, mais tout le monde sait que c'est Dufresne qui est en question. Alors, donc, pour la commission, enfin, pour Dufresne et ses compagnons, on a réussi pratiquement à détruire tout l'ancien système de gestion du pays, et on ne peut pas abandonner ce pays sans l'avoir préalablement réorganisé. En raison de l'impopularité du Khedive, la garnison britannique est indispensable. De surcroît, sans force britannique, il n'y aura pas de réforme. L'exemple de l'Anatolie après 1878 en est la démonstration. Et comme dit Mackenzie Wallace, je vous laisse méditer cette réflexion, on a bien vu l'état de l'Afghanistan après le départ des troupes britanniques. Il ne faut pas que l'Égypte devienne un nouvel Afghanistan. Donc il faut recréer une armée égyptienne, c'est-à-dire surtout recréer un corps d'officiers. On ne peut pas exclure le recrutement d'officiers fellahs. Ce serait une injustice qui provoquerait de nouveaux troubles, mais on ne peut pas chasser non plus les turco-circassiens qui sont nés dans le pays. Après tout, ils ont conservé les qualités de bravoure et de commandement qui font les beaux officiers. Ils ont le sentiment de l'honneur militaire et de la fidélité chevaleresque envers les supérieurs. Là, on est dans la complète mythologie britannique victorienne de ce que les Britanniques appellent, après la guerre des Sipayes, les races martiales. L'Empire britannique repose dans ce recrutement de ses armées indigènes des races martiales ont, comme les Gurkhas, comme les Sikhs, comme les Punjabis, donc ces races martiales qui ont toutes les vertus médiévales, contrairement à ce qu'en en Inde on appelle les Babous, c'est-à-dire ces Bengalis gras, qui sont ingrats et qui refusent les conseils britanniques. Et l'équivalent des babous en Inde, évidemment, ce sont les FND en Égypte. Alors, c'est vrai que les turco-circassiens ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont un peu brutaux avec leurs soldats. Donc, il faut qu'il y ait des officiers britanniques pour les contrôler. Ce qu'on peut dire, c'est que Dufresne et ses compagnons, ils se trouvent, si on utilise le vocabulaire d'aujourd'hui, dans un problème de gouvernance. La classe dirigeante rétablie au pouvoir est corrompue et hostile aux réformes. Et on ne peut pas faire un système de représentation politique en Égypte parce que ce serait provoquer de nouveaux troubles. Il faut que l'Angleterre se concentre vertueusement à réparer tous les défauts du système égyptien avant de pouvoir lui laisser son indépendance, ou en tout cas un degré important de self-government. On est là dans la contradiction coloniale britannique, mais au-delà classique, qui est que le colonialisme se présente comme un despotisme censé être éclairé, qui devrait déboucher sur un système représentatif. Mais on n'a jamais vu un despotisme déboucher sur un système représentatif. Alors, le programme, c'est réorganiser l'armée, ensuite réorganiser la justice. Alors, on rejette l'idée de Nubar Pacha, qui avait fondé les tribunaux mixtes. Nubar Pacha voulait que la justice égyptienne adopte le code Napoléon, pour aligner la justice égyptienne sur la justice des tribunaux mixtes. Mais c'est trop compliqué et trop coûteux pour une population paysanne très pauvre. Il faut trouver une procédure simplifiée pour des juges indigènes qui seront sous supervision européenne afin d'éviter tout arbitraire. Ensuite, Dufresne suggère une amnistie pour les paysans pour mettre fin à l'usure rurale, qui est le fléau qui touche la paysannerie. Mais il faut aussi un aménagement de la dette égyptienne, car la loi de liquidation ne suffit pas à régler la question de l'endettement de l'Égypte. Mais le problème, c'est que les Français contrôlent la caisse de la dette. Et donc, pour obtenir un allègement de la dette égyptienne, il faut l'acceptation des Français. Pour le reste, l'Angleterre n'a pas d'intérêt économique majeur en Égypte. Ce n'a qu'un intérêt géopolitique, le canal de Suez. Alors, l'idéal serait de prendre le contrôle de la compagnie universelle canal, mais là encore, les Français risquent de s'y opposer. Le rapport Dufresne représente la quintessence de la pensée libérale confrontée à l'impérialisme. Il trouve sa justification par la suppression des arriérations de la société traditionnelle, l'établissement de l'état de droit et l'utilisation de la technologie moderne. Il doit aboutir à la constitution d'un État indépendant disposant de ses ressources propres. Il n'est pas question dans le rapport d'exploitation et de domination, mais il n'est que la version égyptienne du fardeau de l'homme blanc que Kipling va bientôt chanter ou vanter. C'est-à-dire qu'il implicitement, il aboutit à un protectorat britannique tout en affirmant le contraire. Alors, Dufresne est un bon manœuvrier, c'est parfaitement que son rapport va déplaire à Londres. Donc il fait ce que font tout bon aux fonctionnaires dans ces cas-là, il organise des fuites, de telle façon que le contenu du rapport soit connu avant qu'il arrive à Londres, et le gouvernement anglais va se trouver devant le fait établi du rapport et donc obligé d'en suivre les conclusions. Et c'est là où je vous laisse cette année.